rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, nouveau générique ou presque, voilà, c'est la rentrée, le nouveau rendez-vous, saison 3, c'est parti. Toute l'équipe est là, très heureuse de vous retrouver. Valérie est bronzée, elle est tout en blanc, une reine de beauté. Contente de rentrer ?
Très contente de vous voir, Laurent.
Ah, ce n'est pas la même chose. Christophe Bourseillébu, c'est le contraire, une éminence grise, tout en noir. L'été s'est bien passé ?
Bah, oui, écoutez, très intéressant, j'étais près de Vichy.
Ah oui ? Aïe, aïe, aïe. Vous avez dormi où ?
À l'Aleti Palace Hotel, vous connaissez ?
Précisez.
Eh bien, c'est face à l'Opéra.
D'accord, mais vous avez dormi dans la chambre de ?
Normalement de l'amiral Darlan, mais je ne suis pas sûr.
Parfait. Bref, tout le monde est prêt pour notre première bonne soirée au programme Un Lapineau et un Aphasique. BD et rentrée littéraire avec nos deux invités. Lewis Trondheim est notre parrain pour cette première émission. Il avait tué son héros des années 90, Lapineau. Vous en avez rêvé, il l'a fait. Résurrection de Lapineau dans un monde un peu meilleur pour de nouvelles aventures au pays des chaînes info en continu. Bonsoir Lewis Trondheim.
Bonsoir.
À vos côtés, un nouveau venu, Olivier Chantraine. C'est l'élément perturbateur de cette rentrée. C'est son premier roman, l'élément perturbateur. Il a fait Le bonheur de mon été avec un héros hypochondriaque dans le monde impitoyable des affaires, avec un frère ministre des Finances qui se rêve peut-être en président jupitérien. Bonsoir Olivier Chantraine.
Bonsoir.
22h30, ça sera le live. Pour l'instant, V2 Valley, on ne change pas la formule. Qui va ouvrir la saison ?
Alors, j'ai envie de dire guitare, guitare, guitare et ambiance plutôt
loud, mellow and confused.
Bruyant, détendu et un peu confus. C'est le groupe anglais Slow Dive qui vient de sortir son premier album en 22 ans. Donc c'est un peu aussi quelqu'un qui revient comme votre personnage Louis Trondheim. Ils ont fait sensation hier soir à Rock en Seine.
Le NRV, 22h minuit, en direct, toujours au studio 621, toujours en plein cœur de la maison de la radio. Ça commence.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors cette rentrée signe le retour de Lapineau pour vous, Lewis Trondheim, ce héros que vous aviez fait mourir d'un accident de voiture en 2004. Il est revenu cet été en avant-première, en feuilleton, dans Les Inrocks. Aujourd'hui, publication en album à l'association. Un monde un peu meilleur, c'est le titre de l'album. Vous avez aimé l'exercice du découpage en feuilleton dans Les Inrocks ?
Je suis pas super fan des feuilletons parce qu'on est dans une époque un peu moderne où on a besoin de tout avoir très très vite. Peut-être dans les années 60 c'était sympa d'avoir Tintin un peu toutes les semaines,
ouais.
Mais là maintenant on veut tout de suite et c'est, je suis pas sûr que ça marche bien.
Ah, mais ça a plutôt bien marché, non ? Enfin moi j'attendais.
Ah, je suis pas négatif tout le temps donc c'est pour ça que je dis ça.
Olivier Chantraine, c'est votre première rentrée littéraire, première émission de radio aussi, je sais.
Absolument.
C'est parfait pour un premier auteur. Lapineau, vous connaissez ce héros de Lewis Trondheim ?
Oui, je connaissais. Ouais, j'avais lu.
Ah ouais.
J'avais lu et j'ai déjà lu le dernier que j'ai beaucoup aimé.
Oh, moi, c'est gentil.
Notamment les dialogues hyper ciselés, moi, c'est surtout ça que j'ai aimé.
Ah bah parce qu'il est dessinateur et scénariste pour cet album-là, parce que pour l'album précédent qui date de 2004, il y avait un scénariste, vous aviez fait appel à un scénariste.
Non, en 2004, c'était moi aussi qui l'avais fait. Il y a un seul livre que j'avais fait, c'était avec Franck Le Gall.
C'est ça,
qui Franck Le Gall. Poussin, et c'était un album un peu victorien qui se passait au 19e siècle.
On va revenir sur Lapineau. Il apparaît en 92. C'était Lapineau et les carottes de Patagonie. Un album énorme que j'ai sous les yeux parce que votre maison d'édition gracieusement me l'a offert. Un album énorme à l'époque de 500 pages dans lequel vous racontiez votre apprentissage du dessin. Vous vous souvenez de l'apparition de Lapineau ? Il apparaît à la quatrième case.
Quatrième vignette. Ouais. Je ne pensais pas que ce serait forcément le héros de l'histoire. J'avais un méchant qui arrivait, un gentil qui arrivait, mais je pensais que comme c'était un lapin un petit peu idiot en salopette, il allait mourir assez vite. Puis je me suis attaché très très rapidement à ce personnage-là. Et jusqu'au jour, en 2004, où je me suis dit, non, c'est trop, maintenant, j'ai trop d'amour pour lui. S'il meurt, ça va être une catastrophe. Donc, autant qu'il meure tout de suite, plutôt que dans 10 ans, je me serai encore plus attaché.
Olivier Chantraine, première rentrée littéraire, premier roman, l'élément perturbateur chez Gallimard, collection blanche, bravo. On entrera dans le détail de cette comédie sociale tout à l'heure. Une comédie sociale dans le monde des multinationales avec un dossier politique. C'est votre premier roman écrit ou premier roman édité ? Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant ?
Oui, ça fait 30 ans que j'écris, mais j'ai été pendant 28 ans victime de mon dilettantisme. Donc,
je croyais victime des éditeurs qui refusaient. Non, vous n'avez jamais proposé.
Ah non, je suis mon pire ennemi, en fait. Hein. Donc, il m'a fallu 28 ans pour me dire, ça y est, je m'y mets réellement, sérieusement. Je me suis transformé en moine zen. Et puis finalement, bizarrement, ça a marché.
Parce que tu n'avais jamais achevé un roman ?
Non, oui, j'avais écrit beaucoup de nouvelles, des ébauches de romans. J'avais toujours eu en tête d'être écrivain depuis que j'ai 15 ans et que j'ai lu 37 de le matin. C'est mon rêve de devenir écrivain.
Il cite Jean parce qu'en fait, à l'origine de ce passage à l'écriture, c'est Philippe Jean. Vous avez suivi ses ateliers.
Exactement, NRF, ouais. Et puis, il m'a pris un peu sous son aile, un peu comme son disciple. Je parlais de moine zen, c'est un peu le même rapport, finalement, de maître à élève. Et effectivement, il m'a conseillé, aidé et énormément transmis. J'ai été frappé de voir à quel point il y a sa volonté de transmettre est très forte et son savoir incommensurable.
On reviendra avec vous, justement, sur peut-être les éléments qui vous ont aidé à passer à l'écriture, en tout cas à la publication. Ça veut dire qu'avant, comme disait Lewis Trondheim, vous commenciez écrire, mais vous n'aviez jamais envoyé à l'éditeur. Qu'est-ce qui vous retenait en fait ?
Je trouvais que ça ne le méritait pas. J'ai un tel amour de la littérature que je vénère tellement les auteurs depuis tellement longtemps que je jugeais pas ça assez bon pour être envoyé. Et puis je crois que finalement, un certain nombre d'années de vie, c'est pas négligeable avant d'écrire après tout.
Quel âge vous avez pour ce premier roman ?
45 ans.
45 ans.
Ouais.
Moi, je croyais qu'il avait 28 ans, justement, comment il a fait. Je suis joli, 28 ans pour écrire un roman.
Vous avez publié donc chez Gallimard, édition Blanche. J'imagine que c'est Philippe Jean qui a passé le manuscrit.
Voilà, exactement.
Vous ne l'avez pas envoyé à d'autres éditeurs ?
Non. Le plus rigolo, c'est qu'il l'a passé en me disant, bon Olivier, je te préviens, depuis des années, il n'y a pas un seul manuscrit que j'ai fait passer qui a été publié. Donc il me laissait peu d'espoir, mais finalement c'était à bonne surprise.
Lewis Trondheim, vous vous souvenez, vous, de votre première publication ?
Moi, je faisais mon fanzine quand j'étais tout jeune, donc je le photocopiais, donc j'avais besoin de personne d'autre.
Mais la première véritable publication ? C'était Psychanalyse ?
C'est Psychanalyse, effectivement, en 90. C'est un recueil de petites histoires d'un personnage qui se fait psychanalyser. C'est très simple, hein, c'était un dessin d'un personnage à bouche ouverte, le même la bouche fermée. Je photocopiais les cases et je faisais juste des dialogues pour m'amuser.
Pourquoi vous photocopiez les cases à cette époque-là ?
Parce que je ne savais pas dessiner, je faisais comme je pouvais. J'ai découvert un jour, en fait, je voulais faire de la bande dessinée depuis très très longtemps. Et j'avais pas le dessin du tout au niveau. Et j'ai découvert un jour une bande dessinée que je trouvais très très bien, mais très mal dessinée. Mais vraiment très bien. Et là, j'ai une révélation en disant, on peut faire de la bande dessinée en dessinant mal. Il suffit juste d'accrocher le lecteur à la première case et c'est suffisant. Donc à partir de là, je me suis dit, ne dessinons pas bien. Faisons juste le personnage bouche ouverte, bouche fermée, avec le dialogue, avec un personnage en off, avec une petite queue de bulle qui va vers l'extérieur. Et puis c'est suffisant.
Vous me dites que vous ne saviez pas dessiner, vous aviez fait quand même des études de graphisme publicitaire, donc le dessin ne vous était pas étranger.
Pas étranger, mais j'avais pas le niveau. En fait, ce qui est amusant, c'est de se dire, on est tous dessinateurs jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et à un moment, on arrête de dessiner parce qu'on juge que notre dessin est inférieur à ce qu'on aimerait que ce soit. Et j'avais cette impression-là jusqu'au moment où je me disais, c'est pas grave, ce qui importe, c'est de raconter.
Quand on commence le dessin, justement, quand on est très jeune enfant, est-ce que vous êtes de cette écurie de dessinateurs qui recopie les dessins des autres, par exemple ?
Non, je ne recopiais pas vraiment. J'étais vraiment autodidacte, mais j'ai un père libraire, donc ça aidait. Je vivais dans ma chambre, c'était le bureau de mon père, le bureau de ma mère. Les stocks des livres, j'ai lu 10-18, et livres de poche, donc j'allais piocher là où il y avait un petit peu de baie dans les livres de poche. Il y avait du Sampé, il y avait du Reiser, et c'est ce que je préférais.
Ah oui, c'est cette école-là, pas du tout l'école Tintin, Astérix ou
non,
tout ça.
Non. Mes parents m'offraient les recueils Spirou que je dévorais. Je croyais que j'étais obligé de tout lire, donc je lisais tout. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me surveillait si je ratais une page de BD que j'aimais pas. Mais bon, je lisais tout par, je sais pas, peut-être mon côté auvergnat, il faut rien gâcher.
De votre côté, une culture BD, Olivier Chantraine ?
Non, plutôt vraiment une culture littéraire, des livres. J'ai vraiment, pratiquement d'aussi loin que je me souvienne, j'étais passionné des livres. Alors j'ai démarré avec la Bibliothèque Rose.
Après, le Club des Cinq.
Voilà, j'ai eu l'impression d'être pratiquement un adulte quand je suis passé à la Bibliothèque Verte. Et puis non, ça ne m'a pas quitté. Donc assez peu de BD, même si j'ai une passion absolue pour Bill Watterson, l'auteur de Calvin et Hobbes.
À quel titre ? Pour quelle raison ? Vous avez
J'ai trouvé que c'était de la philosophie en bande dessinée. J'ai trouvé que c'est extraordinaire qu'il y avait un recul. Ne serait-ce que le principe de base qui est que quand le petit garçon est avec son ours en peluche, c'est un tigre mobile. Quand c'est les parents qui le regardent, ça devient une peluche. Et rien que ce gimmick de départ, je trouve ça extraordinaire.
Mais Westrondheim, vous connaissez, j'imagine ?
Alors, Waterson est formidable. Il est formidable d'un point de vue d'auteur et aussi d'intégrité. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 10 ans, il a fait ses scripts tous les jours dans les journaux. Et à un moment, il a dit stop, j'arrête et je veux pas que Spielberg me fasse un film avec ça. Et je vais aller vendre des vélos au fin fond des États-Unis. Et ça, c'est incroyable.
Il n'est jamais revenu, sur cette promesse qui s'était faite.
Tout à fait.
On va vous retrouver tous les deux dans quelques instants. Tout de suite, on va se faire un petit tour d'hélicoptère en hommage à Mireille d'Arc, un titre signé Gainsbourg, qui a fait chanter, on s'en souvient, la grande sauterelle du cinéma de Lautner.
Suspendu au-dessus de toi, dans un hélicoptère, un hélicoptère. Immobile, je ne vois que toi. De mon hélicoptère, mon hélicoptère. Je ne vois ni le soleil, ni la mer, ni même les algues amères. Je ne vois vraiment que toi, qui ne sais pas que je suis là. Cet hélicoptère, cet hélicoptère. Mais voici qu'une fille est apparue, qui s'allonge toute nue sur le sable auprès de toi. Suspendu au-dessus de toi, dans un hélicoptère, immobile, je ne vois que toi, de mon hélicoptère.
Vous étiez mieux au premier acte.
Ah bon?
Quand vous jouiez le gangster traqué, Billy the Kid, vous pouvez y croire. Vous êtes beaucoup moins bien dans le pauvre petit enfant égaré dans un monde cruel.
Vous savez, on a toujours tendance à prendre les bras trapus pour des gangsters, mais c'est un préjugé idiot.
J'en connais un autre qui consiste à prendre les grands blondes pour des imbéciles. D'accord, vous allez dormir ici. Mais ça veut bien dire ici. Ça veut pas dire dans ma chambre.
Oh, ben j'avais compris.
Rendez-vous.
22h17 sur France Inter, on retrouve nos invités. Retour plateau.
C'est bon, tout le monde est là ?
Rendez-vous.
Alors, vous allez intégrer la plus grande entreprise au monde. Hein. Vous pouvez en être fier. Je vous rappelle que Kerr, c'est plus de 400 000 sociétés de par le monde. Et Kerr produit tout. Et je pense que ça...
Rendez-vous.
Ça mérite une hola. Allez.
Laurent Goumard.
Hola.
Sur France Inter.
Tip top.
Et on commence avec vous, Lewis Trondheim, avec une évocation très rapide en ouverture de Reboot. C'était votre série de science-fiction diffusée sur France 4 en 2015. Prix de la web-série à Luchon, vous en étiez le scénariste.
Le co-scénariste.
Le co-scénariste,
David Mourier.
C'était une bonne expérience.
Ah ben j'adore David Mourier, donc on a bien rigolé en écrivant. Et puis après, c'est lui qui a tout filmé, qui s'est débrouillé. J'allais pas sur les plateaux.
Hein. Et vous n'irez jamais sur un plateau, c'est-à-dire par exemple, Lewis Trondheim, réalisateur, comme Johan Sfar, comme Riyad Sattouf, c'est quelque chose qui pourrait être imaginable ?
Non, parce que j'aime pas les gens.
C'est vrai, c'est difficile.
C'est clair. Donc voilà. Non, j'aime pas les chapeaux comme Brassens. Au-delà de trois, ça, quand même, ça va pas.
D'accord. Donc, collaboration avec un scénariste parfois,
voilà,
ouais, votre compagne toujours.
Voilà, des dessinateurs. Hein, mais en fait, j'ai un gros ours bourru, mais j'ai travaillé avec au moins 70 dessinateurs différents.
C'est quand même
dingue. Ouais. Mais toute une équipe, des producteurs, etc.
Ça ne m'intéresse
pas, non.
2 ans plus tard, donc double rentrée pour vous. Un album de super-héroïne, c'est Density chez Delcourt, l'histoire de Chloé qui est dotée de super-pouvoirs qui modifient sa densité corporelle et qui va devoir faire face à une invasion d'extraterrestres. Et puis un autre album très attendu, Un monde un peu meilleur, qui signe Les nouvelles aventures de Lapineau, ce personnage que vous aviez créé dans les années 90, qui a beaucoup vécu, il a absolument tout fait, le Far West, le Moyen-Âge. Et puis je rappelle que vous l'aviez fait mourir dans un accident en 2004, dans La vie comme elle vient. C'était bien de s'en débarrasser. Vous avez hésité?
J'ai pas vraiment hésité. Au début de l'album, en fait, c'est pas lui qui devait mourir, c'est un autre personnage. Et au bout de la page 10...
Son copain
son copain Richard, sans doute, Richard. Ou Titi, qui avait le cancer à ce moment-là. Et en fait, j'hésitais. Et en dédicace, je demandais au lecteur, qu'est-ce que vous préférez qui meurt? Est-ce que vous préférez que ce soit Richard, qui est un gros imbécile, mais très drôle?
Ouais, mais il est génial.
Ou Lapineau, qui est sympa, mais un peu boy scout, moralisateur.
Ouais.
Et 95% des lecteurs me disaient, on préférait que ce soit Lapineau qui meurt. Et je me dis effectivement, si, par rapport à mon récit qui tourne autour de la mort, si c'est un autre personnage qui meurt, ça allait pas. La mort, ça nous concerne directement. Et je voulais pas non plus être un auteur complètement coincé avec son personnage toute sa vie. C'est-à-dire que beaucoup de vieux auteurs des années 50-60 se sont retrouvés à toujours devoir faire le même album, plus ou moins avec le même personnage. Et je voulais pas être coincé comme ça. Je me suis dit, bon, bah, j'ai 40 ans, faisons mourir ce personnage-là, ça tombe bien par rapport à cet album. Et puis après, on verra ce qui se passera.
Vous pensez à quels auteurs qui ont été coincés par leur personnage?
Bah, la plupart des auteurs franco-belges, enfin, surtout belges, que ce soit Franquin, etc.
Qui d'ailleurs a développé une dépression énorme.
Oui, voilà. Donc, nous, on est d'une génération différente. C'est-à-dire qu'on travaille pas avec un seul éditeur, on fait plusieurs personnages, plusieurs séries, on collabore avec plein de gens. Donc, c'est un peu plus facile. Mais malgré tout, mon côté paranoïaque faisait que je ne voulais pas non plus être coincé.
Le faire revenir aujourd'hui, c'est un peu comme faire revenir ces héros de bande dessinée qu'on revoit, par exemple Lucky Luke ou Astérix.
Bah c'est parti de là, en fait.
Black et Mortimer, par exemple, par d'autres dessinateurs.
Tout à fait. Il y a beaucoup d'auteurs qui reprennent des vieilles séries. Et je me suis dit, tiens, quand je mourrai, mes ayants droit, ou plus tard, 70 ans après ma mort, quelqu'un va-t-il reprendre Lapineau? Comment il ferait alors qu'il est mort? Puis j'ai commencé à cogiter, je me dis, ah, ce serait bien de dire, oh, c'est un univers parallèle, c'est pas grave, il n'est pas mort, en fait. Et puis j'ai eu une idée. Et puis j'avais des choses à dire sur la société. J'ai des trucs. Et là, je me dis, bon, bah, faisons-le. Et donc j'ai laissé tomber totalement tout ce que j'étais en train de faire. Et pendant 12 jours, j'ai écrit 12 pages et je les ai dessinées. En me disant, voilà, là, j'ai la motivation, j'ai un flux. J'ai 12 pages, c'est bon. Maintenant, je vais continuer mes autres albums. Et pendant un an, j'ai laissé ça de côté. Et j'ai repris un an après avec cette énergie que j'avais posée.
Les 12 pages, c'est les 12 premières pages que l'on voit. C'est Lapineau et son copain sur un banc. Et puis un mec qui défonce une voiture. C'était les premières pages.
C'était les premières pages. C'était la mise en place, effectivement. Et Lapineau qui veut essayer de bien faire avec cette voiture défoncée en disant, voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi, je sais qui a défoncé cette voiture-là, donc il veut bien faire. Et je voulais un enchaînement où ça allait de catastrophe en catastrophe, alors qu'il voulait bien faire à la base.
Vous auriez aimé, vous, reprendre un héros de bande dessinée abandonné par un de...
Mais j'ai fait un Spirou, avec Fabrice Parme. Et un Mickey, Nicolas Carrière.
Ouais.
C'est un exercice assez rigolo, parce qu'en fait, on nous prête des personnages... C'est comme quand on est gamin, qu'on est dans le bac à sable, et on nous prête des personnages en plastique. Bah, le truc, c'est de les rendre en bon état, mais de bien s'amuser avec.
Il y a un cahier des charges, j'imagine, pour Mickey et Spirou.
Mickey, il y a un cahier des charges assez important, sauf qu'ils ne nous le donnent pas. Ils vous disent, ah, vous avez lu Mickey, vous savez ce qui se passe. C'est juste qu'effectivement, le matin, Mickey ne sort pas de la maison de Minnie.
Oui, parce que ça voudrait dire qu'il a couché avec
elle.
Voilà, c'est
ça. Sinon, c'est tout.
Et est-ce que le soir, il peut rentrer chez Minnie?
Du tout.
Ou chez Donald.
Ni Mickey chez Donald, ni Donald chez Gontran, personne.
Mais je me souviens, parce que votre album, c'était Mickey et Donald. C'était le premier album de Mickey et Donald, en fait. Vous aviez...
Il y a eu des vieilles histoires de Flood Gottfredson dans les années 30, où il y avait Mickey, Donald et Dingo qui étaient détectives. Mais depuis, en fait, les deux univers étaient séparés. Il y avait Mickey qui était à Mickeyville et Donald à Donaldville. Et donc, il y avait l'univers des canards et l'univers des souris, en gros. Le méchant chez Mickey, c'était Patibulaire. Le méchant chez Donald, c'était les Raptous. Et en fait, quand on a fait notre album chez Disney, ils nous ont dit on rêvait depuis des années que quelqu'un réunisse enfin Mickey et Donald. Et merci de l'avoir fait.
Lapineau, vous pourriez le laisser à quelqu'un? À un dessinateur ou à un scénariste? Le scénariste, vous l'avez déjà fait. Hein, pour un album, c'était Franck Le Gall, exactement. Mm-hmm. Mais Lapineau, vous le verriez retravaillé par un autre auteur?
Je ne sais pas. En fait, de mon vivant, j'aurais tendance à dire plutôt non. Ouais. Mais une fois que je meurs, je m'en fiche totalement.
Ah ouais, c'est vrai?
Voilà. Non, je ne suis pas comme Hergé ou d'autres qui disent non.
Ah oui, parce que Tintin, il y a une interdiction.
Oui, sauf que 70 ans après sa mort, ce sera dans le domaine public, donc n'importe qui pourra faire ce qu'il veut.
Alors, cette question de la mort, ou disons de l'arrêt qui revient donc avec la mort de Lapineau, ça revient souvent chez vous. Par exemple, je me souviens dans Désœuvré, vous aviez fait un essai, vous vous posiez la question d'arrêter la bande dessinée. Cette question, elle vous hante toujours?
C'est pas une question d'arrêter la bande dessinée, c'est une question de se dire, la bande dessinée, comme disait Crumb, c'est un métier de jeune homme. Donc, comme le rock'n'roll, en gros. Et c'est difficile.
Il y a plein de gens qui font du rock et qui sont plutôt âgés.
Et c'est difficile
âgés.
De trouver des artistes de BD et de rock qui, à 60-70 ans, font des chefs-d'œuvre. Alors qu'il y a d'autres métiers comme peintre, comme scénariste, comme cinéaste, où on peut encore faire des choses très très bien. Donc, je me disais comment faire suis dans un métier où je vais aller vers une mort lente en faisant des albums de moins en moins bien. Donc, quelle va être ma réflexion pour ne pas tomber là-dedans?
Et alors?
Et alors,
comment vous avez résolu cela?
J'ai résolu ça en me disant, il faut que je décentre mon travail par rapport à ma vie. Il faut que ma vie soit le centre de ma vie et que mon travail, qui est la bande dessinée, petit à petit, devienne moins important. Et donc, je pense que vers 60 ans, je vais faire de moins en moins de bande dessinée jusqu'à arrêter.
Vous pourriez devenir un vieux scénariste, ça c'est pas...
Je pourrais devenir un vieux scénariste, mais il y a des gens comme Gottlieb qui ont décidé d'arrêter parce qu'ils se sont dit, bon, ça va, j'ai tout dit.
Vous comprenez ça, Olivier Chantraine, vous qui avez changé de vie, justement?
Oui, on a en littérature, il y a l'exemple de Philip Roth, finalement.
Ouais.
Qui est peut-être le plus grand écrivain américain vivant et qui a décidé de s'arrêter, qui explique à quel point il est heureux d'avoir arrêté. Salinger aussi, à un moment, s'est arrêté net, beaucoup plus tôt, en tout cas, que Philip Roth. Donc, je pense que ça peut se comprendre.
Parce que c'est difficile d'avoir du recul sur son propre travail. On peut avoir confiance en sa famille ou des amis, mais de se dire, je vieillis, je fais des choses un peu moins bien, puis un peu moins bien. Le problème, c'est qu'on est souvent payé pour ce qu'on fait, et donc on a besoin d'argent, et donc on finit par faire des choses qu'on aime juste pour l'argent, et pas pour ce qu'on aime vraiment. Donc il faut savoir se dire, voilà, là j'arrête, puis c'est tout.
Ça fait écho à véritablement ce que vous avez vécu, on en parlera tout à l'heure, hein, Olivier Chantraine. Alors aujourd'hui, Lapino revient, il est en pleine forme, il n'a pas vraiment changé, toujours un peu moraliste, avec un détail quand même dans la silhouette, parce que les lecteurs vont s'en rendre vite compte, il n'a pas de chemise, il a un t-shirt noir avec une petite tête de mort.
Une tête de mort avec deux dents.
Avec deux dents. Ça vous permet quoi, ce petit détail vestimentaire qui change quand même quelque chose? Parce qu'on
n'a
pas tout révélé.
C'est un petit clin d'œil aux anciens peintres qui mettaient des vanités dans leur tableau avec des têtes de mort un peu cachées pour dire, voilà, on est mortel. Et là, c'était pour dire au lecteur, voilà, je ne suis pas dupe, vous n'êtes pas dupe, Lapino est vraiment mort dans un autre album. Et là, c'est un autre album, c'est un autre univers parallèle. Mais on sait tous que ça va mal se terminer, et désolé.
Lapino en 2017 est un Lapino dans un monde qui a évolué depuis les années 90, date de sa naissance. Il y a des portables aujourd'hui, et Internet, des sites de rencontres, des chaînes d'infos continues, on va y revenir. Alors, l'histoire, on retrouve Lapino et son pote Richard Le Chat, toujours gaffeur et cynique, que tout le monde adore. C'est une belle journée qui pourtant va très vite déraper. Je donne quelques pistes. Un type qui massacre une bagnole, un autre, Gaspard, bizarre, qui va s'incruster dans la vie de Lapino. C'est un type doté d'un étrange pouvoir, il voit l'aura des gens.
C'est-à-dire de voir parce que Laurent, c'est vous.
Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je lis presque ce que je suis. De voir s'il ment ou pas. Un pouvoir qui lui vient de pilules qu'il a mélangées, parce que le type est testeur, cobaye pour des laboratoires pharmaceutiques. Et puis on retrouve Nadia, c'est l'ex de Lapino, qui aujourd'hui est à la recherche de scoops pour une chaîne d'infos continue, quitte à les fabriquer. Donc Lapino version 2017, c'était vraiment l'occasion de pointer, par exemple, le cynisme de ces chaînes infos que vous regardez,
les Wistronais? Non, justement, je ne les regarde pas. J'évite. C'est-à-dire que là, il y a eu les attentats à Barcelone. J'ai entendu ça et tout de suite, l'info tout de suite parce que je ne voulais pas être assailli de nouvelles de gens qui ne savaient rien de ce qui se passait, qui voulaient juste dire il y a eu un massacre. Ne quittez pas l'audience, il y a eu un massacre. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais tout l'album n'est pas non plus cité.
Non, pas du tout. Mais c'est véritablement quelque chose qui va même exploser au cours de l'album.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes parce que effectivement, depuis le 11 septembre 2001, on sait que les chaînes infos en font trop dans une espèce d'information sur la sensibilité, sur l'émotion, alors qu'ils ont rien, ils n'ont pas d'infos. Moi, je suis très choqué, en fait, parce que je vais vous citer une anecdote. J'étais en dédicace et il y a une grand-mère qui me dit... vous savez, moi j'étais avec mon petit-fils, j'étais avec lui, il était au Bas-Cassable, il y avait une petite fille et sa mère, elle avait un voile, c'était une musulmane certainement, et j'ai dit va jouer avec cette petite fille, et mon petit-fils m'a dit non, je veux pas jouer avec elle. Et mais pourquoi tu veux pas jouer avec elle? Parce que ma mère m'a dit de pas jouer avec ces gens-là. Donc sa mère, c'était la fille de cette grand-mère.
Exactement. Oui.
Donc le soir, la grand-mère va voir sa fille et lui dit mais je t'ai jamais appris à avoir peur des gens différents, de cultures différentes. Pourquoi est-ce que tu dis ça à ton petit-fils? Pourquoi tu lui inculques ce genre de valeurs? Ah oui, mais c'est vrai, mais avec tout ce qu'on entend à la télé, aux infos, et là je me suis dit, merde, c'est pas possible. Et en fait, il y a une valeur d'éducation au niveau de la famille, il y a une valeur d'éducation au niveau de l'école, il y a une vraie aussi valeur d'éducation au niveau de l'information des chaînes d'infos. Sauf que c'est c'est pas contrôlé. Effectivement, c'est pas forcément souhaitable que ce soit contrôlé, mais il y a une différence entre dire n'importe quoi tout le temps, faire peur tout le temps, répéter toutes les 5 minutes qu'il y a eu un attentat, et on croit qu'il y a eu 10 attentats dans l'heure. Et voilà, je voulais un petit peu discuter de ça.
Du terrorisme médiatique, puisque c'est le terme qui revient dans la bouche d'un des personnages.
Les médias à ce niveau-là jouent le rôle des terroristes. Les terroristes veulent monter les gens les uns contre les autres, les cultures les unes contre les autres, et veulent que les gens aient peur. Et les médias, par l'intermédiaire de leur de ça, en fait, font peur aux gens et jouent ce jeu-là. Moi, ça me désole.
Olivier Chantraine ?
Je suis complètement d'accord. Après, je dirais qu'en creux, ça illustre finalement toute l'importance du service public, parce que finalement, ces chaînes d'infos dont on parle appartiennent à des entrepreneurs, à des groupes de médias, en tout cas à des intérêts privés, dont l'objectif n'est pas forcément, et à la limite, c'est le philosophe Comte Sponville qui disait finalement, les entreprises, elles sont ni morales ni immorales, elles sont amorales. Et c'est le propre de ces chaînes d'infos. Et à l'inverse, l'importance d'avoir des chaînes de services publics qui n'appartiennent pas à des intérêts privés et qui, du coup, sur le papier, en tout cas, ont les moyens de faire une information un peu moins sensationnelle.
Mais je rêve de jour où il y aura un attentat et toutes les chaînes d'infos diront « Voilà, il y a eu un attentat, c'est important, on vous en reparle quand on en saura plus ». Ça, je peux rêver. Hein.
Ce jour-là n'est pas véritablement encore arrivé. Alors, ça n'évoque pas que les attentats, il y a cette histoire de terrorisme médiatique, mais cette fois-ci vous dessinez aussi des portables, des ordinateurs, ça permet aussi de connecter les gens les uns aux autres, même pour avoir des relations, on va dire, sentimentales. Est-ce qu'il y a eu un plaisir de votre part de dessiner ce qui paraissait pas dans Lapineau précédemment, des portables, des ordinateurs?
Les auteurs de Lapineau commencent vraiment en 92-93, ouais, avec Slalom, où ils sont en vacances de ski, etc. Et en fait, jusqu'à 2004, c'est comme si c'était passé 2-3 ans dans la vraie vie de Lapineau. Donc en fait, ça se passe jusqu'en 97. C'est un monde sans internet, sans portable, ouais, sans réseaux sociaux. Donc il y avait un moment, il fallait que j'uploade un petit peu cet univers-là. Après, dessiner un portable et un ordinateur,
c'est pas super génial.
Il y a mieux.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez absolument pas dessiner?
Je suis comme tous les dessinateurs. Il y a deux choses horribles à dessiner, c'est les vélos et les chevaux. Donc j'évite.
Et les visages? Parce que là, c'est toujours,
des visages humains.
Des visages humains,
oui. Oui, c'est ça, parce que je dessine beaucoup d'animaux.
Beaucoup d'animaux, oui.
Mais l'année dernière, j'ai fait un récit qui s'appelle Coquelicot-Dirac avec ma femme,
avec
où je raconte
femme.
Son histoire, comme elle est née à Mossoul.
À Mossoul, oui.
Et là, j'ai dû dessiner des êtres humains.
Et alors,
je sais faire des nez, finalement.
Et des mains?
Des mains, mais sans trop de doigts, parce que c'est compliqué, les doigts.
Il y a eu un plaisir à dessiner, justement, ces aventures-là?
Un plaisir, c'est toujours un plaisir d'essayer de se renouveler. C'est-à-dire que quand on a 50 ans et qu'on se dit « Est-ce que je suis arrivé au bout de mon système graphique? Est-ce que je peux faire autre chose ?» Oui, ça fait plaisir. Après, il faut aussi se changer au niveau graphique, au niveau de la narration. Si on peut se réinventer, c'est bien. Parce qu'effectivement, c'est un métier souvent de redite. Et comme j'ai peur de cette redite-là, j'essaie de faire des choses différentes.
Alors la redite, elle n'existe pas véritablement pour vous. Il suffit de voir les deux univers pour cette rentrée de BD. Density, c'est chez Delcourt. Et Un monde un peu meilleur, les nouvelles aventures de Lapineau à l'association. On se retrouve dans quelques instants. Lewis Rondheim et Olivier Chantraine.
Rendez-vous.
Un nouveau jingle pour vous, hey, rien pour vous, Magie.
J'ai commencé à danser déjà.
Et ça annonce quoi? L'instant V, l'instant live.
Écoutez, c'est l'instant V. Je voulais raconter qu'hier, c'était le clap de fin du festival Rock en Seine qui ferme la saison des festivals d'été et qui marque la rentrée des classes des mélomanes et des journalistes musicaux. Un des concerts le plus couru était celui d'hier soir de nos invités, Slow Dive. C'était au Bosquet, la plus petite scène à 2 kilomètres de l'espace VIP. Pour les nostalgiques des années 90.
C'est là où elle vit. Et de la vie est un immense espace VIP.
C'est pas vrai du tout. Je suis dans les concerts. Il y a beaucoup qui restent dans le VIP. Mais quand même, c'était un peu loin, le Bosquet. Mais ça valait le détour. Pour les nostalgiques des années 90 et de surcroît du mouvement shoegaze, c'était une madeleine. Shoegaze, qu'est-ce que c'est, Laurent?
Exactement, j'allais vous poser la question.
Alors, c'était une étiquette de journaliste pour un genre anglais dont Slowdive fait partie des pionniers aux côtés de My Bloody Valentine ou The Jesus and Mary Chain, et que veut dire ceux qui regardent leur pompe. Une façon de décrire des groupes qui, soi-disant, manquaient de charisme et ou étaient timides et se cachaient derrière un mur de guitares saturé d'effets tout en regardant leurs chaussures. Un ensemble plutôt splinesque, mais il faut rappeler que les mélodies étaient juste des tueries. Aujourd'hui, on dirait peut-être de la dream pop. Hier soir, rock en scène, la prestation de Slow Dive, qui se traduit comme une lente plongée, nous faisait justement plonger doucement dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs venait l'extase. Deux titres ce soir, extraits de leur quatrième album, le premier depuis 1995. Ils ouvrent avec Star Roving. Soul Live dans le nouveau rendez-vous sur France Inter et sur Facebook Live.
Et en Facebook Live, vous pouvez dès à présent vous connecter sur la page Facebook de l'émission.
Slow Dive, it's up to you. We'll be right back.
merci.
Erwin Hastel de guitare, chant, Rachel Goswell, chant et guitare, Simon Scott, batterie, Christophe Saville, guitare et Nick Chaplin à la basse. C'est vrai qu'hier soir, ils étaient trois parfois à jouer. Je vais poser une seule question. Alors, Neil, you're the closest. You're going to speak into the microphone that Guillaume...
Ah. Hi. Bonsoir.
Alors, it's the first album. C'est le premier album de Slow Dive après plus de 20 ans. C'était facile de retrouver ses marques. First album in 22 years. Was it easy to get back together and find each person their place?
No, it was quite difficult.
Non, c'était difficile. Yeah. Ça prenait un peu de temps.
It was just hard to make the record.
C'était difficile de faire le disque.
Yeah, because we needed a bit of time. We toured for a couple of years.
On a fait des tournées pendant quelques années.
And did a lot of shows, and that kind of made it kind of easier.
De concerts, et ça faisait beaucoup plus facile pour se retrouver ensemble. Last night at Rock on Seine, how was it for you? Rock on Seine last night.
Oh, it was lovely. It was a really beautiful night. Yeah, we really
c'était
enjoyed
une,
it.
Une soirée yeah. très très belle. On a beaucoup aimé. We're going to go to the second song because we're running out of time, and I prefer listening to the music. Le deuxième titre s'appelle "Sugar for the Pill". Slow Dive dans le nouveau rendez-vous sur France Inter.
There's a pills that are gold, drumming in the wind.
Le nouvel album de Slow Dive est disponible sur le label Dead Oceans Piaz. Ils sont en concert le 15 septembre à Angers au festival Lévitation, prise de son flanc Layani, Guillaume Roux et Raphaël Rousseau. Et c'est Grégory Wallon à la vidéo. Et je sais que Olivier Chantraine est fan de ce groupe.
C'est vrai?
Absolument. J'ai téléchargé l'album et sur les plateformes le jour où il est sorti.
Ah, j'en avais une physique pour vous.
C'est encore mieux.
C'est encore mieux. Si vous avez un album physique, c'est encore mieux. Une programmation de Marion Guilbeault dans un autre style. Toujours ukulélé. Lewis Trondheim.
Je suis passé à la guitare depuis 4 ans.
C'est une révolution.
Ah oui, je me suis dit 4 cordes, ça, j'arrive. Maintenant, on va essayer 6.
Quel répertoire?
J'essaie de faire des trucs personnels parce que les répertoires classiques.
Des compositions personnelles.
Oui, en fait, je dessine et pour m'amuser, pour me détendre les doigts, je fais des petites choses perso. Parce que si je dois répéter et faire des choses très assidues, c'est plus de la rigolade.
De votre côté, vous êtes musicien aussi, Olivier Chantraine?
Oui, je joue un peu de guitare, mais très mal, je veux dire. Je joue très mal sur une très belle guitare, ce qui est assez paradoxal.
Quelle guitare?
Une Fender Stratocaster de 1964.
Et de votre côté?
Moi, j'ai une Taylor 3/4, un acajou. Mais en fait, le truc, c'est que pendant 40 ans, je voulais apprendre un instrument et j'ai jamais appris. Puis à un moment, je me suis dit, ça fait 5 ans que je joue à Tetris sur Game Boy. Si j'avais passé autant de temps à faire un instrument, ce serait un petit peu plus intelligent. Donc j'ai lâché le Game Boy et j'ai commencé à faire le ukulélé, puis maintenant la guitare.
Un new rendez-vous? Non. The new rendez-vous.
Valy est partie, mais je pensais qu'elle allait nous dire justement quel était... Si, Valy, vous allez rester, vous revenez.
Peux vous dire des trucs, si vous voulez.
Oh, Louis Trondheim, quelle imitation formidable.
C'était le temps que je revienne.
Oui, c'était le temps que je revienne pour dire thank you very much to Slow Dive, ils sont partis.
Et demain?
Et demain, c'est super. Demain soir, c'est le groupe français Inuit, jeune formation française, produite par The Shoes, qui a signé... Notre générique.
Exactement. Refaites-la, Lewis Trondheim.
Oh, a signé le générique.
La générique.
Ah, vous êtes
la générique, ce serait encore mieux. Olivier Chantraine, je le disais en début d'émission, c'est votre première entrée littéraire. Premier roman, L'élément perturbateur chez Gallimard. Une comédie sociale hilarante et acide sur le monde des multinationales avec un dossier politique. On va revenir sur le roman. Un premier roman, on en parlait en tout début d'émission sur le tard. Avant, vous faisiez quoi?
En fait, je me suis fait piéger par mes parents quand j'étais lycéen. J'allais passer le bac et ils m'ont dit on va t'inscrire à des concours d'école de commerce, ça t'entraînera pour le bac. Et manque de peau, j'ai été reçu. Donc une fois que j'ai eu mon bac, ils m'ont dit tel truc, vas-y. Et je suis parti pour 20 ans de carrière dans le business et dans les multinationales.
Vous étiez bon?
Oui, malheureusement, je dirais, ça a été ma plus grande souffrance, c'est-à-dire que j'étais bon à faire quelque chose que j'aimais pas. Donc ça se passait bien, j'allais dans de plus en plus belles sociétés, des postes de plus en plus beaux, et en même temps, c'était assez compliqué, parce que c'est, paradoxalement, plus on grimpe dans ces multinationales, plus on est dans des déserts culturels. C'est-à-dire, moi, il y a des gens qui lisent de livres.
Vous vous êtes rendu compte à quel moment que vous vous fourvoyez complètement pour pouvoir changer de vie et aujourd'hui, d'abord déménager, quitter Paris, s'installer en Provence et ouais. Passer à l'écriture?
Ouais, un peu avant 40 ans, c'est assez classique, non?
Ouais. C'est ça où on change de femme? Non, je plaisante.
Oui, alors moi j'avais changé à 30 ans. J'avais
ah oui, déjà.
Très vite, très très vite. À 30 ans, j'ai changé de femme. J'avais déjà 3 enfants. Donc, non, c'était très rapide. Et à 40, disons que j'ai changé de cap et il y a eu l'idée à la fois de se mettre au vert et puis vraiment de me consacrer beaucoup plus à l'écriture et de me donner une vraie chance d'accomplir finalement mon rêve de toujours que je m'étais jamais donné les moyens d'atteindre, et en me disant voilà, je vais faire comme ces millions de gens qui écrivent, je vais travailler, et puis je verrai bien si ça marche ou pas, quoi.
Lewis Trondheim, je semblais intéressé tout à l'heure par ce parcours.
Non, mais c'est très courageux. Le nombre de gens qui font une carrière, qui disent un jour, je ferai autre chose, j'arrêterai, je ferai le truc qui me plaît, et qui finissent dépressifs à 60 ans, c'est énorme. Là, bravo.
Ouais, c'est vrai.
Alors aujourd'hui, l'élément perturbateur, c'est Serge Horowitz, la quarantaine. Il bosse dans un cabinet de conseil pour optimiser fiscalement les entreprises. Signe particulier à 40 ans, il vit toujours chez sa sœur, il a une petite chambre dans l'appartement, il est hypochondriaque avec des périodes d'aphasie. Ça a commencé il y a 3 mois, juste au début du roman. C'est-à-dire qu'il lui arrive de ne plus pouvoir parler, et ce, dans des réunions ou en pleine négociation. Ça lui arrive notamment avec des clients japonais au Japon. Résultat, l'affaire, qui était une affaire énorme, ne sera pas conclue, et c'est le début d'une embrouille financiero-politique. Il faut quand même ajouter que le frère de ce héros est ministre des Finances, un ministre qui va trahir son président et se lancer dans la campagne présidentielle. Suivez mon regard, il est en marche. Qu'est-ce qui déclenche une telle fiction ? Olivier Chantraine.
En fait, c'est la première phrase, finalement. Finalement, la première phrase du livre donne le ton, déclenche la suite, crée des personnages.
Sur l'aphasie, puis, ça commence par
ça peut me prendre à tout instant, une heure ou deux, parfois quelques minutes. Les premières manifestations sont apparues il y a 3 semaines, et depuis, c'est comme ça, je ne sens rien venir. Je me lève chaque matin, et à n'importe quel moment de la journée, le mal peut venir me frapper. Je me retrouve subitement incapable d'articuler le moindre mot. Même si habituellement rien ne me dérange vraiment, je veux dire que cela n'est pas sans me créer un certain embarras.
Serge est un drôle de héros aphasique, une sorte de Bartleby contemporain en fait.
Absolument. Hein,
exactement. Un outsider, c'est le genre de personnage que vous aimez, même en tant que lecteur.
Oui. Je dois dire que s'il y a un auteur que j'admire plus que tout autre, c'est Raymond Carver. Raymond Carver qui finalement, pendant les 10 ans de sa brève carrière, aura donné finalement la parole à ceux qu'on n'entend jamais, aux plus démunis, aux anonymes qui se vivent dans des lieux anonymes, des situations anonymes, et il en fait parfois finalement des héros, des gens très touchants. Et donc cette idée de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. M'intéresser et donc finalement dans la mondialisation et dans le succès, je préfère m'intéresser à ceux qui ont fait un pas de côté comme Serge, mon narrateur.
Lewis Trondheim.
Je me demandais comment on trouve la première phrase de son roman.
Aucune idée.
Elle vient, c'est pas un truc qui angoisse.
Non, elle vient un moment et puis on se dit tiens là, il y a quelque chose et je sens que je vais pouvoir dérouler. Et
voilà, c'est un fil qu'on tire.
Ouais, exactement.
Okay. Et vous l'avez gardé, c'est-à-dire que la première phrase du roman, c'est bien la première phrase qui est arrivée, parce que c'est pas toujours
vraiment
le cas, hein, quelquefois.
Ouais, non, je l'ai pas retravaillé. Ouais.
Et vous, Lewis Trondheim, c'est pareil. Vous, le premier dessin, c'est le dessin qui déclenche.
Oui, c'est la situation, la discussion entre deux personnages, la situation un peu cocasse, et après je déroule.
Vous avez parlé tout à l'heure de la première case.
Oui, tout à fait. Exactement.
Alors, tout à l'heure, hein, en début d'émission, on racontait un petit peu la genèse de ce roman, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont des ateliers d'écriture, c'est-à-dire c'est Philippe Djian qui vous met au travail dans ces ateliers de la NRF. Quels sont les éléments qui vous ont le plus intéressé dans ce qu'il vous a enseigné ? Qu'est-ce que vous avez appris de Philippe Djian en particulier ? Parce que vous écriviez déjà depuis très longtemps.
Oui, c'est vraiment son niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve qu'il y a un malentendu sur cet auteur où les gens, bien qu'il ait eu un succès
fantastique
et énorme, et encore aujourd'hui. Mais je crois que les gens qui l'écrivent comme un écrivain rock ou autre n'imaginent pas à quel point cet homme vénère la littérature, à quel point c'est une affaire sérieuse pour lui. Et ce qui m'a vraiment appris, c'est le niveau d'exigence qu'on doit avoir avec soi-même. C'est la principale chose que j'ai retenue de lui.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a fait refaire, par exemple ? Qu'est-ce qui n'allait pas chez vous ?
C'est ce niveau d'exigence, il l'a résumé auprès de moi en disant finalement la complexité, c'est que chaque phrase, une fois qu'on l'a terminée, qu'on l'a corrigée, il faut qu'on puisse se dire que en aucun cas elle ne pourrait être écrite autrement. Et en même temps, chaque phrase, elle doit à la fois répondre à des critères esthétiques en termes de style, et en même temps apporter véritablement quelque chose au récit, avoir une justification dans la narration. Il suffit pas d'écrire une phrase magnifique, mais qui ne serve à rien, sauf à faire plaisir à l'auteur ou à vouloir impressionner ses lecteurs. Elle doit à la fois être belle et avoir du sens.
Pour se consacrer à l'écriture, vous avez dû quitter Paris, vous vous êtes installé en Provence. Il fallait quitter Paris ?
Oui, alors je suis retourné dans un petit village de Provence dans lequel j'avais grandi. Et en même temps, il y avait cette idée vraiment, oui, de s'aérer. Parce que le temps s'écoule différemment, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, le temps s'écoule très différemment quand on est dans un petit village et quand on est dans une grande ville hyper urbaine. Donc ça favorise une vie un peu plus contemplative, plus de réflexion. Et je crois qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, ça a été extrêmement bénéfique à l'écriture.
Le fait, vous, de vous installer à Montpellier, Lewis Trondheim, il y a vraiment beaucoup d'années maintenant, ça a été décisif aussi dans votre travail.
Oui, parce que je suis pas né à Paris, je suis né à Fontainebleau. Ouais. J'ai vécu 10 ans à Paris, puis je voulais pas que mes enfants grandissent à Paris. Je me dis, je crois que les arbres, ils ont à peu près 50 ans de vie de moins à Paris. Je me dis, j'ai pas envie que mes enfants aient 10 ans de moins de vie à Paris.
Et à Montpellier, vous avez des interlocuteurs dans la BD ?
Oui, j'ai plein de copains. Il y a Guy Delisle, il y a Jason, ouais. Il y a Olivier Vatine.
Ouais, il y a toute une, presque toute une école à
Montpellier. Mais dans plein de villes de France, maintenant qu'il y a Internet depuis 15 ans, il y a plein d'ateliers, que ce soit à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, à Aix-en-Provence. Là j'en pensais à autre chose, parce que je passe du coq à l'ail. Ah oui. Mais j'ai lu, tu vois, si tu as lu le roman de Stephen King, Écriture.
Oui.
Et à un moment, il dit un truc qui m'a frappé. Il m'a dit, enfin, il a dit... je ne mets pas d'adverbes. Je refuse de mettre des adverbes. Et là, je me suis dit, ça va être tétanisant si on est écrivain d'avoir lu ce truc-là et d'écrire des adverbes de temps en temps, puis dire non, je rature ou je rature pas.
Ouais, en même temps, c'est vrai que c'est bon, le travail de coupe dans son propre texte, c'est quand même un travail qui est assez important. Finalement, il faut toujours se dire que ce qu'on peut écrire en 15 mots, il faut pas l'écrire en 20 ou en 25 finalement. Donc, on passe quand même énormément de temps à tailler dans ses propres textes, quoi.
Alors le roman est un roman absolument hilarant, je pense notamment par exemple à une, enfin on va pas raconter toute l'histoire, mais il y a un moment donné où ils sont sur l'autoroute dans une petite voiture pourrie pour aller dans un campanile. Enfin il y a toute une vie aussi, non pas que de la vie parisienne, que de la vie des multinationales, mais aussi comment ça se passe dans une petite ville en région. Mais c'est un roman d'apprentissage puisque le héros Serge Horowitz. D'abord à ce sujet, comment vous bâtissez le nom Horowitz? Pourquoi vous avez choisi ça? Ça vient comme ça?
Ouais, c'est venu comme ça spontanément. Et une fois que c'est venu, il était impossible de lui donner un autre nom que celui-ci.
Donc, un roman d'apprentissage, Serge va se découvrir des facultés spirituelles. C'est-à-dire que son aphasie, son silence, va être interprété par les autres, dans les multinationales, comme une manifestation de sagesse. Et je ne vais pas dévoiler les talents de coaching de ce personnage. Je lisais que vous étiez devenu bouddhiste. Je me demandais s'il y avait une relation entre votre pratique de l'écriture, aujourd'hui, telle que vous la menez, et par exemple, la méditation qu'on travaille quand on est bouddhiste. Olivier Chantraine.
Je dirais qu'un bénéfice indirect, alors en n'oubliant pas que finalement dans la pratique bouddhiste et de la méditation, c'est la différence avec le développement personnel, c'est qu'en fait être bien soi-même n'a qu'un but altruiste pour pouvoir aider les autres, être mieux avec les autres, là où le développement personnel est plus strictement centré sur soi. Moi ce que ça a développé, en tout cas la pratique de la méditation, c'est une faculté de concentration beaucoup plus forte. Et comme je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le travail, l'idée de me concentrer et d'être à fond sur un temps limité, ça me convient parfaitement.
Vous écriviez combien d'heures par jour, par exemple, pour ce roman? Puisque je vois qu'il y avait une certaine discipline, en fait.
Oui, j'écrivais tous les matins, donc au moins 2 heures par jour la semaine, et puis le week-end, pratiquement 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche. Disons que j'ai vraiment coupé toutes mes passions, tous mes loisirs pour totalement me consacrer à l'écriture.
Lewis Trondheim, une discipline aussi de dessin? Tous les jours?
C'est, en fait, le travail d'auteur de BD, c'est un travail un petit peu de moine et c'est difficile d'arrêter. C'est vraiment un mécanisme, c'est de la gymnastique. Si on arrête de dessiner, si on arrête d'écrire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est très difficile de reprendre. Et puis surtout, on se revoit un petit peu en arrière et on se dit, mais c'est quoi ce travail de dingue? Pourquoi je m'inflige ça? Je dois faire autre chose? C'est pas possible.
Alors, un élément perturbateur, merci Olivier Chantraine, c'est chez Gallimard. Allez, on conclut cette première partie avec une indication géographique. Maison de la Radio, 16e arrondissement, à 2 pas, c'est Neuilly. On y retrouve Cléa Vincent, une programmation pop de Jean-Baptiste Audibert.
Plein de confiture, un matin avant temps, tu sors.
Le retour de Cléa Vincent dans le NRV. Le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec Christophe Bourseiller et avec ça.
La une de Charlie, vous l'avez vu ? Une camionnette qui s'enfuit. On voit deux hommes à terre avec ce titre « Islam, religion de paix, plus loin, éternel ».
Au programme Terrorisme, Islam et Charlie, de quoi Daesh est-il le nom ? Il est 23h exactement sur France Inter.